Les amphis d'Amicus.
Dans cette édition spéciale, les étudiants de Master 2 de l'Université Paris Panthéon-Assas prennent la parole et partagent leur regard sur des questions juridiques actuelles autour du micro d'Amicus Radio.
Aujourd'hui, Marie-Lou Fourdrin nous parle de l'adaptation de la procédure pénale au phénomène terroriste. Épisode 5, basculement de la législation terroriste d'exception dans le droit commun.
Chères auditrices, chers auditeurs, nous arrivons au terme de notre parcours. Après avoir étudié ensemble les origines de la procédure pénale en matière terroriste et ses applications avant, pendant et après le procès, il nous reste à aborder en guise de conclusion une question plus transversale, celle de la porosité entre la législation terroriste d'exception et la législation de droit commun. Le contexte social et géopolitique de ces dernières années, marqué par l'intensification de la menace terroriste sur le sol français, a poussé l'État à envisager la menace terroriste non pas comme une menace ponctuelle qui fonde l'arsenal de l'état d'urgence, mais comme une menace continue qui nécessite un cadre législatif renforcé dans le droit commun. Plutôt qu'être un droit réactif face à une situation d'urgence, le législateur a souhaité privilégier une démarche proactive en prévention d'actes de terrorisme. On permet ainsi aux autorités de police de pouvoir procéder au stade de la police administrative, soit avant toute infraction constatée, à des mesures qui permettraient de prévenir la commission d'actes terroristes. À l'opposition donc de la police judiciaire qui, elle, sert à réprimer une fois les infractions constatées. Privilégiant les intérêts que la lutte antiterroriste entend protéger, la sécurité publique, les intérêts fondamentaux de l'État, le législateur a alors permis au droit entourant les actes de terrorisme de s'infiltrer dans le droit pénal commun, soit une récupération de mesures dans le cadre de l'état d'urgence. Une première extension de ces mesures attentatoires au cadre commun de la procédure pénale s'est opérée avec la loi du 24 juillet 2015, lors d'une réforme destinée à étendre les pouvoirs des autorités administratives, notamment dans le cadre du renseignement. Cette loi s'inscrit dans un contexte particulier, celui des attentats de Paris, et l'instauration de l'état d'urgence dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015. C'est particulièrement à partir de la loi SILT du 30 octobre 2017, Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, que l'on observe une introduction d'un nombre important de mesures inspirées de la loi de l'état d'urgence du 5 avril 1955 dans la procédure pénale de droit commun. La loi SILT est alors destinée à opérer un régime transitoire, une sortie maîtrisée, pour reprendre les propos du Premier ministre de l'époque, entre la sortie de l'état d'urgence antiterroriste et le retour au droit commun, après 6 lois de prolongation qui ont marqué les 2 années précédentes. La loi du 30 juillet 2021, relative à la prévention des actes de terrorisme et au renseignement, permet au législateur de revendiquer l'inscription dans le droit commun de mesures inspirées du cadre de l'état d'urgence, afin de pérenniser l'extension opérée en 2015 et en 2017. Elles sont marquées par un rôle important conféré au pouvoir exécutif, avec l'octroi de pouvoirs exorbitants par rapport à son rôle ordinaire, par le biais de la police, et plus particulièrement de la police administrative. Parallèlement, on y dénote un contrôle plus restreint par les juges. On y trouve notamment la fermeture administrative des lieux de culte, les visites domiciliaires, des fichages de données personnelles, et surtout les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, aussi appelées MICAS. Ces dernières portent une restriction importante à la liberté d'aller et venir de personnes, ouvrez les guillemets, à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public. En d'autres termes, des personnes présumées innocentes subissent des mesures lourdes sur un standard qui est pour le moins vague. Ainsi, ce régime est assimilable aux assignations à résidence, sans disposer d'un contrôle juridictionnel équivalent, qui est pourtant essentiel à garantir les droits de la personne concernée. L'ensemble des mesures introduites par ces dernières réformes sont caractérisées par une volonté affirmée d'introduire le cadre du droit de l'état d'urgence antiterroriste dans le droit commun, au motif d'une volonté de prévention et de sécurité plus importante face à une menace terroriste qui perdure en France. Cette politique sécuritaire est ouvertement remise en cause lors des débats, illustration avec l'intervention de la députée Karine Lebon lors des débats sur la loi du 30 juillet 2021.
La parole est à Mme Karine Lebon pour la gauche démocrate et républicaine et pour 5 minutes.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, alors que la menace terroriste perdure, nous réitérons notre engagement sans faille pour agir avec fermeté contre le terrorisme, dans le respect de la séparation des pouvoirs et de la protection des droits fondamentaux. Si chacun est pleinement conscient de la réalité du phénomène terroriste et de la nécessité de prévenir les attentats, il est fondamental, plus que jamais dans cette période troublée, de maintenir les équilibres de notre état de droit afin de renforcer et non affaiblir l'édifice démocratique dans son entier. Depuis 2015 et l'instauration de l'état d'urgence, nous n'avons eu de cesse de rappeler notre profond attachement aux principes fondamentaux de notre état de droit et de mettre en garde contre le risque de pérennisation de l'usage de dispositifs exceptionnels. Malheureusement, ce projet de loi confirme nos inquiétudes. Il s'inscrit à la suite d'une multiplication de lois sécuritaires dérogatoires au droit commun, votées sans véritable évaluation préalable des dispositifs existants, sans véritable évaluation de leur nécessité et de leur efficacité. Ainsi, vous nous demandez de pérenniser, en les renforçant, les dispositifs de police administrative issus de la loi SILT, eux-mêmes issus de l'état d'urgence. Je rappellerai que notre groupe s'était fermement opposé à la loi SILT, loi de normalisation de l'état d'urgence, en accord avec l'ensemble des associations de défense des droits de l'homme, de nombreux experts, des organisations internationales et autorités administratives indépendantes. Nous avions alors alerté sur les risques et les dérives de la banalisation des mesures d'exception, de nature à fragiliser l'état de droit et l'exercice des libertés fondamentales. Nous nous opposons aujourd'hui, en cohérence, à la pérennisation de ces dispositifs d'exception. Nous nous interrogeons toujours sur l'utilité de ces mesures de durcissement de l'arsenal répressif et administratif en matière de lutte contre le terrorisme, alors même que notre législation en la matière est déjà substantielle. Nous nous opposons également à la pérennisation et à l'élargissement des mesures expérimentales de la loi Renseignement de 2015, qui permet la surveillance automatisée du réseau par des algorithmes. L'extension des facultés conférées aux services de renseignement, la légitimation sans réserve de méthodes d'investigation très intrusives, l'imprécision de la définition des situations justifiant le recours à ces méthodes, ainsi que l'insuffisance des mécanismes de contrôle et de recours, ne permettent pas de garantir la proportionnalité des mesures d'intrusion dans la sphère privée au regard des buts poursuivis. En outre, s'agissant de la question sensible de l'accès aux archives publiques, rappelons, comme l'a fait la Commission nationale consultative des droits de l'homme dans un courrier adressé au Premier ministre le 15 juin dernier, que, je cite, « l'accès aux archives est un droit de valeur constitutionnelle reconnu à tout citoyen sur le fondement de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et que ce droit doit également être garanti en vertu des principes constitutionnels de libre expression et d'indépendance des chercheurs. Il s'impose au-delà, au nom de la connaissance de l'histoire politique de la France qui exige la vérité sur celle-ci, mais aussi parce qu'il est de nature à contribuer à la réconciliation des mémoires, voire peut en être la condition. Nous partageons ainsi les préoccupations exprimées par les archivistes, historiens et juristes relatives à l'article 19 de ce projet de loi et soutenons avec eux sa modification suite à la décision du Conseil d'État du 2 juillet dernier. Le Conseil d'État a en effet jugé illégal l'instruction générale interministérielle numéro 1300 sur la protection du secret de la défense nationale qui, depuis plusieurs années, bloquait l'accès aux archives publiques secret défense de plus de 50 ans. L'annulation de cette procédure de classification doit ainsi être pleinement prise en compte par ce projet de loi. En définitive, aujourd'hui comme hier, nous considérons que notre état de droit ne peut s'accoutumer aux atteintes aux libertés et droits fondamentaux, ni accepter comme un effet collatéral les abus et dérives causés par ces dispositifs dérogatoires. S'il est indispensable d'agir avec fermeté contre le terrorisme, le respect de la séparation des pouvoirs, le respect des libertés individuelles et leur contrôle ne doivent comporter aucune faille. En conclusion, à l'opposé de cette logique, nous considérons donc qu'il convient de se donner les moyens humains et matériels d'agir par l'amélioration et le renforcement des services de renseignement, par le renforcement de la coopération entre services avec nos partenaires européens et internationaux, par le travail de terrain avec une police de proximité au plus près de la population et des observateurs du quotidien présents en nombre, au plus près des publics les plus fragilisés. Je vous remercie.
Merci. La parole...
De nombreuses critiques ont pu pointer du doigt le caractère hautement attentatoire aux libertés fondamentales d'une telle immixtion d'un droit, par nature dérogatoire, à la procédure pénale dans le droit commun. La législation terroriste répondait en principe à un état de nécessité où, dans un temps limité, on autorisait les autorités à déroger à des garanties bien établies en raison d'un péril imminent qui allait porter atteinte à la préservation de l'État, dans le but d'en garantir sa survie. exporter des mesures commandées par un impératif d'urgence absolu pour les infiltrer dans le droit commun relève alors d'une atteinte importante aux garanties qui encadrent la procédure pénale, comme la présomption d'innocence et les droits de la défense. Notamment, la mesure peut obliger la personne qui vient de purger sa peine à être assignée dans un périmètre avec une obligation de pointage, ce qui porte, encore une fois, une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir. Les MICAS, cités plus haut, ont pu être largement critiqués dans la rigueur des interdictions et des obligations auxquelles sont soumises les personnes ayant purgé une peine pour terrorisme, ce qui a poussé le Conseil constitutionnel à en restreindre la durée. Stéphanie Hennette-Vauchez, professeure de droit public à l'Université Paris-Nanterre, qui a travaillé plusieurs années sur la banalisation de l'état d'urgence, a ainsi pu, dans son essai « La démocratie en état d'urgence », critiquer cette domestication de l'exception face à l'état de droit. Elle y pointe notamment le brouillage entre la norme, qui répond aux garanties élaborées autour de l'état de droit, et l'exception. L'état de droit est une notion centrale qui définit l'assujettissement de l'État et de ses autorités au droit, ainsi que l'obligation d'utiliser les moyens prévus par le droit. Les mesures antiterroristes, qui répondent à un objectif de rapidité et d'efficacité, en constituent une limite, de par leur caractère proactif et surtout dans le contrôle limité qui en est fait par l'autorité judiciaire, qui reste le garant constitutionnel des libertés individuelles. De manière générale, l'autrice souligne le fait que les mesures introduites par les différentes réformes étaient considérées comme illégales autrefois, car elles portaient une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle. Le droit permet alors de parer les atours de la légalité, ce qui était hier encore illégal. Les réformes successives de la législation antiterroriste ont ainsi ouvert la porte à la modification d'autres normes de droit pénal. Pierre Januel a indiqué le 14 janvier dernier, dans un article sur Dalloz Actualité, que la commission des lois du Sénat réfléchit d'ores et déjà à un nouveau texte sur le terrorisme. Il aurait pour objectif de compléter l'arsenal répressif déjà fourni et le dépasserait, en réformant notamment la révocation des mesures de probation et la dissolution des associations. La tendance accrue ces dernières années a donc été, en exposant une menace toujours plus importante sur le sol français, de basculer les normes antiterroristes dans le droit commun, au profit du pouvoir exécutif, et de continuer à en développer le champ d'application et les modalités. Pourtant, des interrogations demeurent. L'absence de mise en balance de cet arsenal répressif face aux libertés fondamentales, notamment par le contrôle juridictionnel et les garanties procédurales traditionnelles, pose des failles importantes. Les critiques se cristallisent surtout sur la légitimité d'une telle banalisation d'un « droit commun du terrorisme » tiré d'un état d'urgence. Comment justifier la pérennisation de mesures dont leur gravité était justifiée par leur caractère exceptionnel et temporaire ? Des auteurs soulèvent l'adéquation de ce type d'adaptation du droit face à la nécessité de répondre à la menace terroriste. Mais la protection des citoyens face au terrorisme doit-elle nécessairement s'envisager par une restriction continue et durable des libertés fondamentales garanties par l'état de droit, fondement de notre démocratie ? Nous arrivons à la fin de ce cycle d'épisodes sur la procédure pénale en matière terroriste et les enjeux qu'elle renferme.
Nous vous remercions grandement de votre écoute durant ces 5 épisodes et nous espérons qu'ils vous ont intéressé et qu'ils ont nourri votre réflexion.
Tous nos remerciements à Madame la professeure Pauline Lemonnier de Gouville pour sa relecture précise et précieuse.
À bientôt pour de nouvelles aventures juridiques.
Cet épisode des Amphis a été produit par Amicus Radio, avec le soutien de la Fondation Panthéon Assas, qui encourage et valorise l'entrepreneuriat étudiant. Merci à la professeure Cécile Chenet et à Aubin Jupin pour leur aide précieuse dans la coordination de ce projet. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.